parce que tu es un Dieu vivant. Merci pour cette révélation spéciale qui s'appelle la parole de Dieu, la Bible, qui nous permet aussi de mieux te comprendre, de recevoir ta grâce à travers cette lecture. Seigneur, inspire-nous, que tu nous aides à ouvrir notre entendement. Non seulement nous acceptons cette parole en tant que vérité, mais qu'on puisse aussi mettre en pratique cette parole qui nous est tellement chère. Merci encore pour ce que tu vas faire aussi ce matin à travers ton esprit. Oui, transforme-nous, façonne-nous selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. J'aimerais vous lire dans Josué, chapitre 24. Ce n'est pas la parole d'aujourd'hui, mais c'est pour l'introduction. Josué 24, 14, 15, où il est écrit ainsi: « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Voilà jusqu'ici notre lecture. Moi, pas seulement moi-même, mais aussi ma famille, ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un choix, une déclaration de sa foi devant tous, déclaration de sa fidélité devant tout le monde, devant tout le peuple. C'est un passage assez puissant, et Josué, qui a été le disciple fidèle de Moïse, il a aidé le peuple à conquérir la terre promise, et puis en fin de vie, il s'adresse au peuple d'Israël. Et il leur rappelle que tout ce que Dieu a fait pour eux, que voilà, le Seigneur les a accompagnés, les a fait grâce, leur a accordé tellement de grâce, et que maintenant, à la fin de sa vie, il les met face à une décision cruciale. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Je pense que le Seigneur encore nous parle, encore aujourd'hui, à travers aussi cette parole, en disant que choisissez encore. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Soit vous marchez à droite, soit vous marchez à gauche. Soit vous prenez le chemin étroit, soit vous prenez le chemin large. Ce verset est un appel à prendre position avec clarté et conviction. Est-ce que nous prenons position dans la vie quotidienne? En tout cas, ces déclarations, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel », c'est une déclaration personnelle mais aussi familiale. Là, peut-être on pourrait réfléchir, quelle influence avons-nous chez nous? Parce que ce n'est pas seulement moi, c'est aussi la famille. Que transmettons-nous aussi à nos enfants, à nos proches, à nos amis? Aujourd'hui encore, Dieu nous pose la même question, qui veux-tu servir? Donc vous avez bien compris, le thème d'aujourd'hui c'est prendre position devant les hommes mais aussi devant le Seigneur, en se basant sur l'histoire de Daniel. C'est pas sur Josué, c'est l'histoire de Daniel. Alors si je vous dis Daniel, quels sont les premiers récits qui vous viennent à l'esprit? Vous pouvez répondre. Comment? Lyon. Les jeunes, la fournaise, oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'histoires, il y a donc la fosse au lion, et puis les compagnons de Daniel qui sont dans la fournaise ardente, encore l'interprétation des rêves des rois, et puis à partir de chapitre 7, là on parle des quatre bêtes, et puis l'Apocalypse, jusqu'à la fin. Et c'est un livre intéressant. Et le premier chapitre de Daniel raconte comment Daniel et ses amis, ses trois amis, les jeunes Israélites nobles, sont emmenés en captivité à Babylone. Et puis, après la conquête de Jérusalem, et puis le roi de Babylone choisit justement ces jeunes hommes pour les former à sa culture et puis afin de les utiliser dans son gouvernement, dans son administration. Et c'est pour ça qu'il les transforme. Il change même leur nom. Je me rappelle, je n'ai pas vécu à cette époque-là, mais je sais que par l'étude que j'ai pu faire à travers l'histoire de mon peuple, la Corée, je sais que la Corée, quand la Corée était colonialisée, mes parents, mais aussi mes arrières, mes grands-parents, devaient changer de nom. Hein, donc ils avaient tous un nom japonais à ce moment-là. Pendant 35 ans. C'est un peu dans ce même genre d'histoire. Je vous lis un verset, Daniel 1, chapitre 8. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Voilà, ils sont en train de tout transformer, de les éduquer avec leur science, avec leur culture, et il y avait une certaine pression d'adopter la nourriture et les coutumes babyloniennes. Daniel, à ce moment-là, décide de rester fidèle à la parole de Dieu. Vous savez, il faut imaginer que nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament. Nous sommes à l'époque de l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il fallait respecter plein de règlements. Et d'après les lois de Dieu, notamment, enfin, il fallait ne pas manger certains aliments offerts, des viandes sacrifiées aux idoles ou encore des animaux interdits. Il y avait aussi des vins offerts à des dieux païens. Donc, Daniel décide, et aussi ses amis décident, de manger que des légumes et de l'eau. Les premiers végétariens. Et après, les chefs eunuques refusent au départ, parce qu'ils disaient que si toi tu vas pas bien, moi je serai mort. Hein. Et là il dit, au bout de 10 jours, testez. Hein. Et après avoir testé pendant 10 jours, ils avaient meilleur visage, etc., que tous les jeunes gens, par rapport aux autres personnes, ils étaient une meilleure mine, et puis ils étaient en bonne santé physique. Et non seulement ils étaient en bonne santé physique, mais le Seigneur, à cause aussi leur foi et de leur fidélité, il leur a accordé aussi pas plein de sagesse, d'intelligence et de succès. Voilà donc leur première détermination pour prendre position devant un fait accompli où ils devaient justement s'adapter à la coutume de l'époque. Ils devaient vraiment aussi faire des compromis avec des situations un peu difficiles. Mais ils ont vraiment été au clair en disant que non, nous on ne veut pas souiller notre corps, notre âme. Et ils ont décidé de le faire ça. Deuxième événement qu'on pourrait voir, c'est dans Daniel 3. Le roi Nebuchadnezzar érige une immense statue d'or de 27 mètres d'eau. Et c'était un symbole de pouvoir et d'unité. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, voulait justement affirmer son autorité sur son empire. Et donc la statue d'or représentait sa grandeur, sa richesse et son pouvoir. Et donc, en ordonnant à tous de l'adorer, il cherche à unifier. Vous savez, il n'y a pas que les Juifs, mais il y avait plein d'autres peuples qui étaient présents. Et il cherchait à unifier tous les peuples sous son contrôle, à travers aussi cet signe de révérence à ce statut. Et aussi pour aussi faire obéir et pour peut-être afficher sa grandeur en tant que empereur. Et le décret est simple, au verset 4 et 6, il est dit que au moment où vous entendrez le son de la musique, vous vous prosternerez et adorerez la statue d'or. Quiconque ne se prosterne pas sera jeté dans la fournaise ardente. Voilà l'histoire de Daniel. Imaginez la pression sociale que Daniel et ses amis ont dû recevoir. Et puis, C'était cette incitation à exprimer leur révérence, à se prosterner. C'était un événement public. Donc, ils ne pouvaient pas se cacher quand l'événement se passait. Et puis, il y avait aussi une musique qui donnait le signal. Ça veut dire que, voilà, tout le monde devait se prosterner, devant tout le monde. Et c'était facile de voir si quelqu'un ne faisait pas cet acte. Et il disait dans cette parole que bah, quiconque ne se prosternera pas sera jeté dans la fournaise ardente. À ce moment-là, Daniel n'était pas là. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait que les amis de Daniel. Donc Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont pris dans cette situation et puis, voilà, ces trois jeunes Hébreux refusent de se prosterner. Des gens les dénoncent aussitôt au roi. Et puis on voit au verset 12, « Ces Juifs que tu as établis, donc ils ont quand même une certaine responsabilité, ne tiennent aucun compte de toi au roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue. » Alors le roi, après avoir entendu cette nouvelle, il est devenu furieux. Et puis il leur donne une deuxième chance en leur disant, parce qu'ils ne veulent pas les mettre immédiatement dans la fournaise ardente, mais il leur donne quand même une deuxième chance. En leur disant, si, au verset 15, si vous vous prosternez, tant mieux. Sinon, vous serez jetés dans la fournaise. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc c'est une question. Hein? Et devant cette proposition et de question de voilà du roi, leur réponse était remarquable. Au verset 16 à 18, il dit que nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu peut nous délivrer. Voilà. Conviction. Ou confession de foi. Mais même s'il ne le fait pas, même si Dieu ne nous sauve pas, nous ne servirons pas tes dieux. Là, ils affirment la puissance de Dieu, que Dieu est capable de nous délivrer. Confession de foi. Mais en même temps, il dit aussi que même s'il ne le fait pas, parce que c'est lui le Dieu, c'est selon sa volonté qu'il va agir. C'est pas selon ma volonté. Et puis, s'il n'agit pas, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Nous ne servirons pas tes dieux. On voit vraiment leur foi inébranlable. Là, le roi, furieux, fait chauffer la fournaise 7 fois plus, apparemment. C'est juste une expression, mais pour dire que c'était très, 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 très chaud. Au point que bah, les soldats qui les avaient amenés pour les pousser dans la fournaise, bah, ils sont morts à cause de la chaleur. Alors que les trois amis de Daniel, eux, bah, ils étaient, sains et saufs, merci. Ils étaient sains et saufs. Au verset 25, il est dit, je vois, donc voilà, un miracle spectaculaire a lieu. Et puis, au verset 25, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent dans le feu. Et puis plus tard, il dit, le quatrième, parce qu'ils ne sont pas trois, apparemment il y a un quatrième personne, il dit, le quatrième ressemble à un fils des dieux. Waouh! Voilà. On pourrait dire que pour nous, en tout cas, cela pourrait être considéré comme une préfiguration de Christ qui protège les fidèles de Dieu, ses fidèles, ses enfants. Et là, après avoir vu ce spectacle, le roi est touché et il les fait sortir. Et là, il constate qu'ils ne sont pas brûlés, il n'y a pas une seule brûlure, pas même l'odeur de feu sur eux. Dieu, il a vraiment vu que Dieu est intervenu personnellement. Et Dieu reconnaît la grandeur de leur Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer de la sorte. Par leur témoignage, par leur détermination. Voilà comment on peut témoigner auprès des gens qui sont autour de nous. Voilà donc, deuxième prise de position, très fort. Les trois hommes, après cela, sont promus dans le royaume. Et puis, voilà, leur foi à travers cette expérience devient un témoignage public, même au cœur d'un empire idolâtre. Et puis, troisième prise de position, on peut voir ça dans Daniel chapitre 6. Daniel, le prophète, est âgé. Il a servi sous plusieurs rois babyloniens. Et maintenant, il est sous l'empire Mède et Perse, dirigé par le roi Darius. Daniel est un haut fonctionnaire, fidèle à Dieu, toujours. Et puis, le roi Darius nomme plusieurs personnes comme gouverneur et place trois chefs au-dessus d'eux. Donc, il y a 120 gouverneurs et puis au-dessus d'eux, il y a trois chefs. Et dont Daniel, qui fait partie d'un des trois chefs. Et il se distingue même par sa sagesse, son intégrité, son esprit d'excellence. Et le roi, après avoir vu sa qualité de personne, pense même à le mettre à la tête de tout le royaume. Et là, les autres chefs sont jaloux. C'est normal. On est entre hommes. Quand quelqu'un est au-dessus de moi, tout à coup, voilà, on commence à avoir ce sentiment de jalousie et il cherche à l'accuser. Mais il ne trouve rien parce que Daniel était un homme intègre. Ils ont essayé de fouiner quelque chose pour peut-être l'accabler, l'accuser, mais ils n'avaient rien trouvé. Alors, il monte un piège par rapport à sa foi. Il savait très bien que Daniel priait chaque jour en direction de Jérusalem, à Dieu, à son Dieu. Alors, ils ont manigancé pour que le roi Darius signe un décret interdisant de prier quelqu'un d'autre que le roi pendant 30 jours. Et là encore, qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes dans cette situation? Est-ce que vous allez prendre position? Ou bien est-ce que vous allez faire un compromis en disant « Mais bon, 30 jours, c'est pas grave. Ma vie est plus importante. Je pourrais faire encore beaucoup de choses pour mon peuple, pour le peuple de Dieu. » On pourrait créer tellement d'excuses, de raisons pour se retenir dans sa vie de foi. Juste faire semblant en se disant que, de toute façon, je ne crois pas à ce Dieu-là. De toute façon, je crois à mon Dieu. Donc, je vais peut-être être... Non ? Dans cette situation, il prend position. Malgré les décrets, Daniel continue de prier Dieu trois fois par jour, comme d'habitude, avec les fenêtres ouvertes, comme il le faisait tous les jours. Et là, de nouveau, oui, il a pris position, il n'a pas caché sa foi, il n'a pas caché sa foi. Le roi, il était triste, parce que, comme je viens de vous dire, il a apprécié Daniel par son excellence, par sa sagesse, par son intelligence. Il pensait même le placer au-dessus de tous. Et puis, sachant que il n'a pas respecté le décret du roi, il ne pouvait même pas, changer la loi. Puisqu'un décret, c'est un décret. Et même le roi ne pouvait pas annuler ce décret, une fois que ça a été tamponné. Et donc, il était obligé, triste, mais obligé par la loi perse, de faire jeter Daniel dans la fosse au lion. Et là, il est envoyé dans la fosse au lion, et puis Dieu envoie aussi un ange pour fermer la gueule des lions. Et là, bien sûr, par la grâce de Dieu, un miracle se produit, et puis Daniel est sauvé. J'aimerais vous lire dans Daniel 6, versets 23-24. Juste avant, il remarque que Daniel est vivant, qu'il côtoie en tout cas les lions sans problème. Et puis, à partir du verset 26, il dit, le roi ordonna donc qu'on apporte Daniel, qu'on le retire de la fosse. Oui, il a été sauvé miraculeusement. Donc, qu'on le retire. Et quand Daniel fut retiré de la fosse, on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Ensuite, le roi ordonna qu'on amène les hommes qui avaient accusé Daniel, et on les jeta dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils ne touchent le fond de la fosse, les lions les saisirent et les déchirèrent. Pour dire que oui, les lions avaient faim. Mais voilà, le Seigneur vraiment avait réalisé un vrai miracle en fermant la gueule des lions. Le roi, ici, reconnaît la grandeur de Dieu, de Daniel, et publie un décret honorant encore le Dieu vivant. On voit vraiment par le témoignage, par la prise de position des hommes de Dieu, que voilà, le nom de Dieu a été, a été témoigné. Et même les autres ont pu vraiment entendre la grandeur de Dieu. Maintenant, revenons à notre vie de tous les jours. Il est vrai que dans la vie d'aujourd'hui, dans certains pays même, le témoignage de l'Évangile est formellement interdit dans certains pays, ou peut-être la majorité d'une religion quelconque. Et parler de Jésus publiquement peut mener à des conséquences graves. Même si on vit au XXIe siècle, il y a encore des pays où on est arrêté, où on est persécuté, où on n'arrive plus à trouver un travail parce qu'on est chrétien. Et dans ces contextes, voilà comment vous allez agir. C'est vrai que nous, on ne vit pas ça parce qu'on vit en France. On a la liberté de célébrer ce culte comme ce matin. Mais si vous êtes dans un pays où on interdit le témoignage de l'Évangile, on interdit de célébrer ou même de témoigner notre foi aux autres, sinon vous allez être arrêté. Qu'est-ce que vous allez faire? Je dirais même en France, même si nous avons cette liberté de culte qui est garantie, partager la foi, sa foi reste quand même difficile. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une culture marquée par la laïcité stricte et il y a aussi une certaine méfiance envers la religion. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, les évangéliques sont considérés comme presque une secte aujourd'hui, dans la tête des gens en tout cas. Et puis si on veut partager la foi, notre foi à Dieu, même en France, on nous regarde comme si tu étais étrange ou arriéré. On te colle même vite une étiquette en disant que tu es extrémiste ou endoctriné. Ou encore, si on veut toi témoigner au travail, c'est interdit déjà, d'ailleurs. À l'université, si tu affiches ta foi, ça peut fermer des portes et même susciter des moqueries. Alors qu'est-ce que tu vas faire dans cette condition-là? C'est vrai que c'est vraiment difficile de témoigner. Voilà. Pourtant, ce monde a besoin de la lumière de Dieu. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, qu'on ne met pas sous un seau, mais sous un chandelier, pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dieu nous invite vraiment à être sel et lumière dans ce monde. Oui, c'est difficile de témoigner, mais c'est précisément parce que le monde est dans l'obscurité que la lumière de Christ est nécessaire. Et c'est pour ça que nous devons agir dans cette voie-là. Comment témoigner malgré les difficultés? Comment se positionner aussi quand il faut se positionner? Dans 2 Timothée, il dit que n'aie pas honte de témoigner, à rendre à notre Seigneur. Peut-être aussi un autre exemple où on doit parfois prendre une position. Prendre position pour Dieu devant le monde ne concerne pas uniquement des actes spectaculaire comme refuser une statue d'or ou se prosterner devant une idole. Non. Parfois, le combat se passe aussi dans le secret du cœur, dans notre vie personnelle, face à des tentations bien réelles. J'ai pu discuter avec plein de personnes qui m'ont demandé de les suivre. Les gens avaient touché dans le passé de la drogue. Ils étaient aussi dans l'abus d'alcool. Parfois, certaines venaient me partager leurs problèmes avec la pornographie. Il y avait aussi des gens qui étaient dépendants avec certains péchés cachés. Prendre position, c'est dire non au péché. Prendre position, c'est aussi dire que j'appartiens à Dieu et que mon corps, mon esprit doit être en relation avec le Père. C'est pour ça que nous devons nous éloigner ou même fuir du péché. Oui, on peut être tenté comme Jésus, mais Jésus a vaincu toutes ces tentations par la parole de Dieu parce qu'il était en lien avec le Père. De même, c'est important qu'on soit aussi en lien avec notre Père. J'aimerais quand même vous dire que, oui, même si nous avons décidé de ne plus pécher, on peut tomber par la suite, comme beaucoup. Mais la vraie force, c'est de se relever. Parce que dans Proverbe 24, 16, il est dit « Car sept fois le juste tombe ». Mais il se relève. Il se relève. On peut tomber. On peut succomber à des tentations. Mais le juste se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Oui, ça veut dire que la justice de Dieu n'est pas la fin. On ne devient pas juste parce que nous sommes parfaits, mais nous devenons juste par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ qui nous a pardonnés. Mais aussi, dans cet acte où nous voulons nous fuir, éloigner du péché, on a besoin aussi de la persévérance. On peut tomber deux fois, trois fois, quatre fois. Relevons-nous davantage et changeons-nous de plus en plus pour nous éloigner avec cette, parfois une addiction ou encore avec d'autres péchés qui existent. Sachez que même si on tombe, Dieu ne t'abandonne pas. Et il veut vraiment que nous revenions vers le Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Voilà ce que dit dans Jean. Confessons nos péchés. Et Dieu qui est fidèle et juste, il sera là pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous façonner. Revenons à Dieu. C'est ça, prendre position. Revenir à Dieu, s'éloigner du péché, c'est refuser d'être l'esclavage du péché, dans l'esclavage du péché. Oui, Seigneur, je suis tombé, mais avec toi, je me relève. C'est ça, en fait. Prendre position, ça peut être aussi remettre nos inquiétudes à Dieu. Souvent, on pense que prendre position pour Dieu veut dire faire face à de grandes épreuves publiques, comme Daniel. Mais prendre position, c'est aussi plus discret, plus intérieur. C'est un choix du cœur, celui de faire confiance à Dieu dans nos inquiétudes. Cette semaine, j'ai pu avoir une réunion en visio avec l'église de Tavernier, avec les responsables. On est en pleine discussion pour la fin du démarche, en tout cas pour que je sois accepté comme pasteur chez eux. Et ils m'ont demandé mes sujets de prière. Alors j'ai partagé ceci en disant que, oui, ben, je pars l'année prochaine. L'église de Vendeuvre, mon plus grand sujet de prière, c'est la relève pour l'église de Vendeuvre. Je prie pour qu'un pasteur soit trouvé, qu'un homme de Dieu adaptées aux besoins de cette communauté viennent. Que voilà, c'est une vraie attente et une lourde responsabilité, mais je disais que je confie à Dieu. Deuxième sujet, c'est l'achat d'une maison ou d'un appartement, un lieu de repos proche de l'église, un lieu où voilà, je peux me reposer. À Vendeuvre, c'est moins cher. À Tavernier, c'est deux fois plus cher. Donc, voilà, c'était aussi un défi à relever. Et je pense que j'ai dit aussi, mais Dieu pourvoit. Donc, voilà, hein. Je verrai encore comment Dieu va agir pour cela. Puis, troisième sujet, c'était l'adaptation à notre nouveau cadre de vie. C'est vrai que mes enfants ont beaucoup souffert quand on est venu à Vendeuvre il y a 12 ans. Ils avaient vraiment du mal à s'adapter dans cette nouvelle contexte. Et puis, maintenant que nous allons encore changer, que ce soit mes enfants, mais bon, ils ne seront plus avec nous, mais voilà, ils vont quand même venir chez nous, là-bas. Et que ma femme, qui va aussi devoir changer, parce que là, elle s'est adaptée depuis 12 ans, elle a un bon collègue de travail à ses côtés, pour des amis avec qui elle peut vraiment avoir des bonnes discussions, et puis des amis à l'église aussi, il faut tout recommencer. C'est vrai que c'est difficile, et je ressens certaines inquiétudes qui montent, mais je disais aussi que je choisis de remettre cela entre les mains de Dieu. Oui, prendre position, c'est aussi dire à Dieu, je ne maîtrise pas tout, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est résister à l'angoisse par la prière. C'est de ne pas céder à la panique ou à la pression, mais croire que Dieu voit, entend et agit. Oui, Dieu voit, entend, agit lorsque nous prions, lorsque voilà, nous remettons tout ça, lorsque nous nous déchargeons sur lui de tous nos soucis, voilà, il prend soin de nous. Amen. Et vous maintenant, quels sont les domaines dans lesquels vous avez besoin de remettre les choses à Dieu, où vous devez prendre position? Comme Josué, qui a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », que nous puissions vraiment avoir cette confession dans la vie de tous les jours, que Dieu nous bénisse, que voilà, prendre position pour Dieu est un engagement conscient. C'est pas l'engagement parce que je suis ému, c'est pas dans l'émotion, c'est quelque chose un engagement personnel, réfléchi, et qu'on doit faire aussi chaque jour dans la vie quotidienne. Et puis je dirais que c'est pas parce que je dis je veux changer que je peux changer. Non, par nos propres forces nous ne pourrons jamais être transformés. Mais c'est par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, que nous pouvons être transformés et façonnés. Que le Seigneur nous bénisse, que nous accorde aussi ce qu'il faut pour qu'on soit transformés par le Seigneur. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour l'histoire de Josué, l'histoire de Daniel et aussi ses trois amis qui ont pu prendre position à chaque fois où ils devaient vraiment prendre position. Ils n'ont jamais fait de compromis avec le monde. Ils ont été exemplaires. Seigneur, je te confesse que je ne suis pas comme eux. Parfois je tombe, parfois je trébuche. Mais à chaque fois, tu nous relèves, tu me relèves, tu m'encourages à aller de l'avant, tu m'encourages en tout cas à prendre cette voie étroite pour avoir une relation plus sincère, authentique avec toi. Seigneur, oui, nous te confessons que ce n'est pas par notre propre force que nous pouvons être transformés, mais c'est par ta puissance, par ta grâce, Seigneur. Accorde ta grâce, oui. Comme cet ami qui me disait toujours à la fin du culte, par la grâce, oui, que par la grâce, que nous puissions continuer notre cheminement, notre chemin, avec toi, au nom de Jésus. Amen.
Amen.